blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà Olivier Borja, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission autour des fruits et légumes et de cette interprofession des fruits et légumes du Valais dont vous êtes le secrétaire général. On parlait un peu du rôle politique hein, d'une interprofession, d'une organisation. On pourrait dire que c'est le syndicat quoi.
Oh, absolument, ouais. tout à fait.
C'est le syndicat des producteurs.
Ouais. Alors peut-être que je vais juste préciser, comme on est une interprofession, on a des producteurs, mais on a aussi les commerces, les transformateurs qui ont leur siège en Valais, qui font partie de notre interprofession. Donc les commerces intermédiaires, les grossistes, hein, pas les commerces de détail.
D'accord. Et les transformateurs ?
Transformateurs, c'est des entreprises qui font la transformation de fruits, des purées de fruits, de l'eau de vie, par exemple.
Non, je vous pose la question, parce que juste avant qu'on commence, pour ne pas dire de bêtises, je vous ai dit, mais le vin, ça rentre pas. Puis vous m'avez dit, ah non, produit transformé.
Alors, le vin est une spécificité, le raisin de table est un fruit, le vin, c'est un secteur à part entière, un jus de pomme, une eau de vie, un sirop, sont des produits transformés qui font partie de la défense de nos intérêts.
Oui, et puis de votre... le vin est peut-être un organe trop puissant pour ne pas avoir sa propre ligne de défense. Quoi. On peut imaginer ça comme ça. Si le vignoble était plus petit, il ferait peut-être partie de votre organisation. Peu importe, ce rôle alors politique, là, on le voit au plan fédéral, on l'a dit, il y a un lobby assez fort à Berne. Vous êtes actif sur le plan cantonal, même si j'imagine que vous travaillez avec les autres cantons. À Sion, en quoi ça consiste votre rôle ?
Alors à Sion, au niveau de la politique cantonale, alors bien évidemment, quand notre interprofession a eu beaucoup de collaboration avec le canton ces dernières années, sur le plan politique également. On a été secoué notamment par des épisodes de gel et de grêle ces dernières années. On a sollicité des aides aussi publiques. Donc c'est des relais politiques qu'on doit avoir tout au long de l'année. Actuellement, on travaille aussi, le Parlement valaisan a adopté fin d'année dernière donc la modification de la loi sur l'agriculture, en prévision de pouvoir créer un fonds contre les risques climatiques qui deviennent de plus en plus récurrents et qui touchent fortement l'agriculture chaque année.
Alors je voulais arriver à ça, hein, aux épisodes de gel. Alors c'est malheureusement un épisode qu'on connaît quasiment chaque année. L'abricot est très fragile hein, et il y a une peur, on y est encore d'ailleurs, hein. Les seins de glace ne sont pas tout à fait finis au moment où on enregistre, je crois, il y a encore cette crainte-là. J'espère que non, je touche du bois. Mais on a eu un épisode de gel assez fort dans le Chablais qui a touché la vigne, hein, plutôt du côté vaudois. Dans le reste du Valais, les fruits ont souffert ?
Alors, quasiment pas. Donc, effectivement, les conditions de gel étaient un petit peu différentes. Cette fois-ci, c'est le Chablais qui était plus touché, puis le Valais central un peu moins, même si le secteur de la viticulture a eu quelques impacts, quelques dégâts dans des régions reconnues comme étant à risque de gel. Mais globalement, j'ai envie de dire, on a patienté les gouttes. Néanmoins, tous les moyens de protection ont été mis en place pour pouvoir éviter, c'est-à-dire l'aspersion, les bougies, pour pouvoir protéger les cultures.
Alors l'aspersion, les bougies, on va en parler un petit peu, hein. Ça aussi c'est une image traditionnelle qui peut être magnifique d'ailleurs, hein, quand on arrose un abricotier en fleurs et que le lendemain on a sous le soleil la photo de l'arbre gelé, protégé par le gel, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Vous me disiez, vous avez des remarques, hein, chaque fois. Alors les bougies déjà, les fumées noires sur la plaine, c'est légal, c'est pas légal, on le fait, on devrait pas le faire.
Alors c'est légal, hein. Il n'y a rien d'illégal à allumer ces fameuses bougies à base de paraffine
qui chauffe
effectivement, le c'est le principe du réchaud, ouais. Hein. Rien d'autre, c'est quasiment les mêmes pâtes que vous retrouvez dans votre réchaud à fondu ou à fondu chinoise. C'est exactement la même chose, si ce n'est que les bidons sont un peu plus grands, et puis le fait qu'ils soient tous allumés en même temps sur des petites zones, eh bien évidemment ça dégage des émanations qui peuvent poser des problèmes sur la durée, mais en l'occurrence c'est toujours des courtes périodes, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement pour trouver des solutions.
Et qu'on utilise que dans les endroits où on ne peut pas arroser.
Exactement. En fait,
principalement sur les coteaux.
Exactement. C'est essentiellement le coteau, ouais. Où on ne peut pas l'arroser. La plaine, vraiment, l'aspersion donc par l'eau est privilégiée. Mais il y a quand même quelques petites zones où on trouve parfois des bougies parce que les gens ne sont pas équipés en aspersion.
L'aspersion par l'eau, ça aussi, hein, on peut se dire, mon Dieu, gâcher toute cette eau. Alors Alors, vous nous rassurez, c'est pas de l'eau potable déjà ?
Non, c'est l'eau de la nappe phréatique. Donc, les réseaux d'irrigation ont été modernisés toutes ces dernières années. C'est vraiment l'eau de la nappe phréatique. Elle tourne en circuit fermé. Elle redescend dans la nappe une fois la glace fondue. Exactement. Ouais.
Bon. Quel est le défi aujourd'hui que vous avez devant vous ? On pense tous évidemment au réchauffement climatique. Est-ce que vous y pensez, est-ce que vous y travaillez, est-ce que on en parle beaucoup dans le monde du vin, hein, on se dit est-ce que les cépages qu'on a traditionnels en Valais tiendront à quelques degrés de plus, est-ce qu'on a ces mêmes soucis dans le fruit et légumes, est-ce qu'on réfléchit à ça?
Absolument, ça fait de nombreuses années que la branche, le secteur, en collaboration avec les centres de recherche, que ce soit Agroscope, travaille sur la question, donc l'adaptation des espèces, des variétés plus résistantes, résistantes aux maladies, résistantes à la chaleur. C'est vraiment un travail de fond, si ce n'est que dans l'arboriculture, mais évidemment un arbre, c'est pas comme un légume. Le légume, c'est une plante annuelle, l'arbre, il est planté
pour du temps,
effectivement, il faut vraiment des années pour pouvoir avoir du recul. C'est une préoccupation majeure, ça c'est clair.
Du recul et de la production, pardonnez-moi.
Exactement.
Ça veut dire que quand on se lance, il faut obtenir quelques années et puis il faut être sûr qu'il y aura quelque chose au bout, quoi.
Absolument. Et aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, on travaille avec les variétés résistantes aux maladies dans le but d'utiliser notamment moins de produits phytosanitaires. C'est un vrai défi parce qu'on a ces variétés qui existent, mais il faut-il encore qu'elles aient un intérêt sur l'aspect gustatif pour les consommateurs et aussi un intérêt de la part des partenaires du marché. Et ça, c'est pas toujours simple.
De ce que vous savez aujourd'hui au niveau des études en agronomie, j'imagine, est-ce qu'il y a des plantes particulières, je pense à la poire William par exemple, ou à certaines variétés d'arboricoles, le fameux luisé, est-ce qu'ils sont en danger ? Est-ce que si on prend quelques degrés, ils seront plus tellement adaptés à nos latitudes et qu'on...
Alors, il y a des variétés dans certaines espèces qui pourront et qui posent problème. Donc, ces variétés vont disparaître par elles-mêmes, elles seront remplacées par d'autres variétés qui sont plus résistantes ou qui ont des périodes végétatives plus tardives, etc. Et on ne peut pas le dire aujourd'hui en disant, mais voilà, l'abricot, par exemple, va totalement disparaître. Comme espèce de fruit, ce n'est pas le cas, à moins qu'on ait vraiment un changement climatique qui soit plus ou moins radical et soutenu, qu'on ait du gel au mois de juin, ça deviendrait vraiment problématique. Mais on s'y prépare, on prépare le changement.
Là, vous travaillez avec qui ? c'est... Parce que pour la viticulture, on a un changin qui travaille, qui a des ingénieurs, des gens très, très formés qui bossent à ça. Vous avez aussi.
Alors, on a exactement la même structure. Il faut savoir qu'Agroscope, qui est les centres de recherche de la Confédération, les compétences de recherche de la Confédération en agronomie, changin, c'est le site de la viticulture. À Comté, il y a le site de l'arboriculture, donc avec les mêmes chercheurs, mais dans d'autres secteurs. Comme il y a Liebefeld dans le secteur du lait, etc., ou Grangeneuve, donc Pauzieux en l'occurrence. Et on travaille, bien sûr, on travaille étroitement, on a des projets, le Valais, notre interprofession conduit un projet qui s'appelle Arbo Phyto Red, c'est un projet ressource de la Confédération sur 6 ans, dont le but est de diminuer de 30% l'utilisation des produits phytosanitaires à risque.
On voit dans le monde du vin une vraie. J'utilise le vin parce que c'est local aussi, hein, mais dans le monde du vin, une vraie prise de conscience, notamment à l'égard des consommateurs. Hein. On sait que, voilà, aujourd'hui, il faut réfléchir à ce que vont vouloir accepter les gens à propos de ces produits phytosanitaires. On est dans le. Est-ce qu'on a déjà la tendance, ma carotte, je la veux bio, et est-ce que ça pèse déjà sur les producteurs, je veux dire ?
Alors, clairement. La tendance est la même dans tous les secteurs d'agriculture, absolument. Donc, du reste, les recherches qui sont faites, elles sont parallèles. On a des maladies qui sont communes aux arbres fruitiers, aux légumes et à la viticulture. Donc, de ce côté-là, le travail est le même. Peut-être qu'il est peut-être moins vu ou perçu par les consommateurs parce que le légume et le fruit sont peut-être un petit peu moins, porteurs qu'une bouteille de vin. Mais le travail est exactement le même. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de différence.
Comment y vont les agriculteurs ? Je vous pose la question parce qu'on a eu quelques votations on voit que c'est un secteur d'activité qui souffre, c'est un monde dur. J'en parle très souvent d'ailleurs avec mes invités sur le fait à quel point ces gens-là aujourd'hui doivent faire 12 métiers différents. Hein. On leur dit mais débrouillez-vous, faites aussi un peu hôtelier, un peu énergéticien, il faut faire de la paperasse comme un docteur en paperasse. Et puis en plus il faut le champ et le travail de la terre. Et puis on voit souvent une sorte de découragement, hein, en tout cas quand il y a des moments médiatiques comme ça, par exemple des votations.
Effectivement, parce que au-delà de tous les problèmes que vous avez cités, évidemment, il y a le manque de reconnaissance du travail qui est fait derrière. Donc on se plaint des prix trop chers, etc., sans savoir combien coûte pour produire une asperge. L'asperge, c'est un bon exemple, on en parlait tout à l'heure. Ça coûte cher à produire, finalement la marge est très faible, il y a ce manque de reconnaissance. Et ça, le monde agricole en souffre énormément, sachant que l'agriculture, ben, tout le monde est concerné, puisqu'on est tous consommateurs d'un produit, on la voit, parce qu'on se... au bord d'une route, d'un chemin, en promenade, on est tous sujets à voir ce qui se passe. Et puis finalement, tout le monde, quelque part, est porteur de conseils ou donneur de conseils, parfois pas à bon escient. Et puis on a toujours tendance à stigmatiser. Là où on voit, donc on a tendance à s'arrêter, à se concentrer, puis à critiquer. Puis ce qu'on voit pas, bien, on dit rien.
Bon, si je vous mets trois ennemis en face de vous, là, les écolos et leurs normes, le libre-échange et les prix cassés à cause de produits qui arrivent de l'autre bout du monde, ou la grande consommation et ses prix imposés. C'est vos trois angles.
Alors, les écolos sont pas nos ennemis.
C'était une boutade, mais enfin, voilà, souvent, les agriculteurs se plaignent des normes. Alors, on a vu en France, notamment, le gouvernement reculer sur les normes à propos de pouvoir d'achat des agriculteurs.
Absolument. Donc, mais quelque part, le point central, c'est la juste rémunération du produit, le prix correct. Le jour où l'agriculteur touche le prix correct pour son travail, pour son produit, qui lui permet d'avoir une marge pour pouvoir vivre correctement, investir, pérenniser son entreprise, eh bien, il peut accepter des normes. Mais seulement, il faut rémunérer la norme, l'exigence supplémentaire. On veut plus de durabilité, mais comme consommateur, on est plein de paradoxes, donc on agit souvent différemment de ce qu'on veut, ou on espère que le voisin agisse pour nous, qu'il fasse notre travail de bonne conscience, et puis nous, on a tendance plutôt à réclamer ou à se plaindre, mais pas forcément à agir. Alors je pense que c'est vraiment le prix, le point central. Mmh.
Le juste prix, oui, pour le juste, oui, travail, on n'y est pas encore cette année. En parallèle de ce qui se passait en France, les producteurs suisses de lait par exemple ont aussi retapé du poing sur la table, pour autant que ça serve à quelque chose. Aujourd'hui on a ce monde là, on l'a vu, je tire encore un dernier parallèle avec la viticulture, on voit beaucoup de parcelles disparaître, notamment les gens qui ont des petites parcelles. Le renouvellement du personnel agricole est un sujet mondial, en tout cas européen. Est-ce qu'on a ce morcellement qui se constate aussi en Valais, la difficulté de remettre une exploitation, la difficulté que les enfants reprennent? Est-ce que vous connaissez ce problème-là?
Alors oui, la problématique de la relève, elle se pose aussi, hein, l'attrait du métier. Alors c'est l'attrait du métier là, mais c'est la possibilité d'en vivre qui peut inquiéter. Dans le secteur de l'arboriculture maraîchère, la structure, elle est un peu différente que celle de la viticulture, surtout en Valais. Le travail de refonte des exploitations, des exploitations beaucoup plus grandes a déjà été fait il y a un certain nombre d'années, ce qui est moins le cas dans la viticulture.
Donc aujourd'hui, on a déjà
on a déjà anticipé ce genre
voilà,
de...
Donc des gens qui, a priori, ont la quantité suffisante pour vivre. Un dernier point, on en parlait avec il y a quelques jours, en parlant du programme de développement du grand entremont, hein, de la spécialisation du produit de niche, du produit phare, ça va nous ramener aux asperges d'ailleurs. Ça, c'est un peu l'avenir aussi, à y trouver des produits qui permettent de faire plus de ventes directes, de se démarquer et de créer une mode. Hein, l'asperge valaisanne aujourd'hui, c'est tous les Valaisans ont envie d'y aller, quoi.
Alors, les produits de niche, c'est une nécessité, mais surtout la diversification. Aujourd'hui, on doit se diversifier dans le monde agricole pour éviter d'être de porter le risque uniquement sur un type de production. Il faut diversifier les marchés, etc. Ça, c'est une nécessité.
Les agriculteurs sont libres de le faire. On a connu des périodes où on leur disait « faites ce dont le pays a besoin ».
Alors, il y a la nécessité de se tabler à ce que veut le marché, à ce que veulent les consommateurs, ça c'est clair, mais ils ont la liberté de pouvoir s'adapter. Après, chacun a un esprit entrepreneurial un peu différent, mais chacun peut le faire, oui.
Bon, ben merci pour toutes ces informations, Olivier Borja.